Alors écoutez, on va commencer par prier ensemble et on va reprendre notre travail si vous voulez. Notre Dieu, notre Père, à la fin de cette journée, nous sommes heureux de nous retrouver avec ta parole. Nous savons que tu nous parles par elle. Nous voudrions que tu parles à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Ce que vous aviez demandé la dernière fois, c'est que on reprenne ce diagramme, qu'on fasse le survol à nouveau de cette histoire biblique, ce qu'on va faire maintenant. Et puis, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer parce que l'objectif que j'ai en tête en vous parlant de ça, c'est de vous parler de la Bible, c'est-à-dire du texte que nous avons, de la raison pour laquelle il est venu jusqu'à nous, et de savoir si nous pouvons avoir confiance dans le texte que nous avons entre les mains. Alors, vous avez le diagramme aussi, je voudrais simplement le reprendre. Il est divisé en 6 parties parce que ce sont les grandes lignes que vous avez, les grandes lignes noires. Les chiffres qui sont en haut, c'est le nombre des années à partir de zéro création en suivant d'une façon continue jusque... voilà. En bas, vous avez des dates, mais de la manière dont nous datons les événements, c'est-à-dire à partir de Christ, en montant, et à partir de Christ, en arrière, en descendant. Comme on ne sait pas exactement l'année de la création, donc on part de Jésus, et on va parler des années avant Jésus, qu'on calcule à reculons, et on parlera des années après Jésus, qu'on calcule en montant. C'est les chiffres que vous avez en bas. Les grandes lignes représentent 1000 ans, et les petites lignes représentent des siècles, 100 ans. Alors, vous remarquez au début, création, on a en haut des premiers, la généalogie si vous voulez, des fidèles. Et en bas de la page, vous avez ce que l'on a de la généalogie de ceux qui ont rejeté Dieu suite à Caïn. Vous remarquez que les premiers de cette généalogie-là ont une très longue vie. Adam, 930 ans, Seth, 912. Celui qui a vécu le plus longtemps, c'est Methuséla, 969. Son père, lui, n'a vécu que 365 ans. Il s'appelait Enoch. Vous vous souvenez pourquoi? Parce que le texte nous dit qu'après avoir marché 300 ans avec Dieu, Dieu le prit. C'est-à-dire qu'il a été emmené au ciel. De la même manière que Élie le sera bien plus tard. On arrive ainsi à un personnage qu'on connaît bien, Noé, qui va vivre 950 ans. Mais au milieu de sa vie, il y a le fameux déluge. Les indications que vous avez sur ce diagramme sont uniquement tirées de ce que l'on peut déduire du texte biblique, selon ce qu'on dira être la généalogie courte. Il y a plusieurs manières, il y a en gros deux façons d'aborder les généalogies. On le verra un petit peu plus tard, la courte et la longue. Mais la plus évidente, la plus proche de la réalité, c'est la généalogie courte, dont vous avez un reflet ici. Alors, l'idée n'est pas de vous donner un compte-rendu historique précis des événements, mais l'idée est de donner un panorama des événements bibliques que le texte biblique va nous rapporter, mais ça nous évite de mettre des personnages qui sont à des milliers d'années les uns des autres, voisins dans la même cour. C'est ça l'idée, c'est de savoir situer à peu près les événements principaux de l'histoire biblique. Alors, le déluge, vous remarquez qu'en gros le déluge se situe 1600 ans après la création, soit 2300-2400 ans avant Jésus. C'est ce que vous avez le long en hauteur, le long de la ligne en pointillé. Ce sont les deux chiffres que vous avez là. Donc au déluge, on est environ 2400 ans avant Jésus. Ensuite, on a les enfants de Noé, Seth, Cam et Japheth, et l'histoire biblique se situe dans la descendance de Sem. On n'a donc pas les autres. Vous remarquez que les gens qui suivent ont une longévité beaucoup moindre. Ça chute à grande vitesse. 400, 200, 100, 200, 175. On arrive à Moïse avec 120. Vous voyez que la longévité va se réduire très très vite. Il y a plusieurs facteurs à ça, mais il ne faut pas oublier que les antédiluviens étaient des gens qui étaient sortis des mains du Créateur et que Dieu avait pour eux l'intention de les faire vivre toujours.
Ah oui, mais il n'y avait pas dit à un moment donné que les hommes vivraient 120 ans.
C'est au moment du déluge, justement.
Mais je pensais que ça avait tombé directement.
C'est au moment du déluge. Et Noé va prêcher 120 ans. Après 120 ans, le déluge va venir. Et on se rend compte qu'assez rapidement, la longévité va tomber autour d'une centaine d'années. Effectivement. Maintenant, dans cette généalogie-là, vous avez un autre personnage que vous connaissez bien. C'est Abraham. Abraham, 1875 environ avant Jésus-Christ, c'est lui qui est appelé par Dieu à quitter son pays d'origine et qui est finalement le point de départ du peuple hébreu, qui va être le centre de notre histoire biblique. Ensuite, vous avez Isaac. Alors, il y a toute l'histoire d'Abraham qui était trop âgé pour avoir des enfants, sa femme aussi. Dieu lui fait la promesse d'avoir un enfant dans son âge avancé, un enfant miracle, autrement dit. Il a du mal à attendre, donc il a un enfant avec la servante, selon la tradition de l'époque. Mais finalement, il a l'enfant de la promesse, Isaac. Et cet enfant de la promesse, vous vous souvenez que Dieu va lui demander de le sacrifier. Ce qui est déjà, dès le départ de l'histoire du peuple hébreu, si on peut dire, dès le départ, l'enseignement clair de ce que le Christ veut faire pour l'humanité. Parce qu'en demandant à Abraham de sortir de son pays et de faire une alliance avec lui, Dieu voudrait utiliser Abraham et sa descendance pour répandre de nouveau sa connaissance dans le monde de l'époque. Un monde qui, depuis le déluge, a de nouveau largement abandonné Dieu à bien des égards. Alors on comprend, en lisant Genèse, qu'il y a des sacrificateurs de Dieu dispersés par-ci, par-là, qui font leur travail d'une façon indépendante. On en connaît un, par son nom, qui s'appelle Melchisédek, et qui n'est probablement pas le seul du genre. On ne sait pas d'où il vient. Il n'est pas lié par la famille à Abraham, mais il est un sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et vous vous souvenez que lorsqu'il a contact avec Abraham, Abraham va lui rendre la dîme, et que Melchisédek va sortir le pain et le vin. Curieux, on a déjà deux signes que l'on va retrouver beaucoup plus tard. Donc on a des sacrificateurs, des représentants de Dieu dispersés, mais pas de cohésion, pas d'organisation, donc pas de force dans le témoignage. Ça va jusque-là? Avec Jacob, on arrive à un tournant dans le sens où le peuple commence à prendre forme. Jacob a 12 fils qui vont devenir les patriarches de 12 tribus qui vont constituer le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Alors, c'est à cette époque-là que l'un des fils de Jacob, le préféré, Joseph, va être vendu par ses frères qui vont le vendre à une caravane de marchands qui vont l'emmener en Égypte. Et là, Joseph va passer des années à tourner en rond, depuis le service jusqu'à la prison. Et finalement, Joseph va se retrouver à la cour du roi, avec une responsabilité de bras droit du pharaon de l'époque, parce que Dieu l'a averti qu'il y allait avoir des années de famine, et Joseph va expliquer au roi quel est le sens de son songe. Il va l'inviter à prendre les mesures nécessaires pour que l'Égypte ne soit pas pris par la famine. Joseph va se retrouver sur le trône de l'Égypte, quasiment, à une époque particulière où les pharaons de ce temps-là sont non pas vraiment des Égyptiens, mais des Hyksos, c'est-à-dire des pharaons sémites, comme la descendance d'Abraham. Il y a donc un lien plus étroit entre la descendance d'Abraham et le pharaon qu'avec le peuple égyptien. Ils sont dominés par des Hyksos qui vont prendre le rôle de pharaon, mais qui sont quand même des étrangers. Alors ce lien de parenté ou d'origine avec Abraham va ouvrir la porte de l'Égypte à Abraham parce que les Égyptiens considèrent les bergers comme des maudits. Il est donc inconcevable, sous une dynastie égyptienne, d'avoir des bergers qui viennent et qui s'installent. Oui.
Vous dites qu'il y a eu un songe.
Oui.
C'est un rêve ou c'est quoi?
Une vision de Dieu. En fait, cette vision, elle a été donnée au Pharaon, qui cherche le moyen de la comprendre. Et de fil en aiguille, on remonte jusqu'à Joseph, qui avait déjà donné par le passé l'explication de vision que Dieu avait donnée, et qui se fait appeler à la cour. Et le Pharaon se rend compte que ce n'est pas un rêve parce qu'il a mangé une pizza trop grasse, c'est parce que Dieu lui a donné une vision. Et qu'il a là un serviteur de Dieu qui vient lui en donner l'explication. Donc c'est pas un rêve prémonitoire, c'est pas une impression, c'est une vision donnée par Dieu.
Mais c'est pas une vision de Dieu qui lui parle, c'est ça?
C'est Dieu qui lui fait voir un certain nombre de choses, cette fois-là dans le cadre précis symbolique, pour lequel il sent qu'il y a besoin d'une interprétation, d'une explication. Et l'explication d'un songe donné par Dieu ne peut être donnée que par un serviteur de Dieu. On a la même chose avec Daniel. Le roi Nebuchadnezzar avait eu un songe, personne ne pouvait lui expliquer son songe. Il a fallu que ce soit Daniel qui le lui explique, parce que Daniel, lui, avait le contact avec Dieu, pas les autres. Ok, alors, à partir de cette situation de Jacob, les choses vont se retourner parce que les frères de Joseph, qui sont encore à la maison, en Palestine géographique, vont eux subir la famine. Ils entendent dire qu'en Égypte, il y a à manger. Donc, ils y vont pour chercher à manger. Puis, sans le savoir, ils tombent sur leur frère, qui est là, habillé à l'égyptien, et qui demande d'être traduit pour communiquer avec eux, alors qu'il comprend tout ce qu'ils disent. Alors ça, c'est une histoire fantastique. Et finalement, il va les mettre au test pour voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Depuis le temps où il s'est fait vendre, ils se rendent compte que ces hommes ont mûri, se sont repentis. Et on a là une immense réconciliation. Les uns et les autres se retrouvent. Ce qui va faire que Jacob et tout son clan, environ 70 personnes en tout, parce qu'ils sont pris par la famine, vont tous déménager de Palestine en Égypte pour être à l'abri de la faim. Joseph, qui est là en haute position, va pouvoir à les installer dans des endroits où ils pourront faire paître leurs troupeaux et prospérer. Et ils prospèrent. Ils vont rester là plusieurs siècles. Mais les Égyptiens vont reprendre leur pays en main, ce qui veut dire que les pharaons favorables aux Hébreux ne sont plus là. Les Égyptiens reprennent les choses en main et ils disent, ces gens-là, il faut les garder tranquilles parce qu'ils progressent plus vite que les Égyptiens. Donc ils se disent, il faut tenir ces gens en main, ils vont en faire des esclaves de façon à ce qu'ils ne leur montent pas sur la tête. Alors, le peuple hébreu va être réduit en esclavage et il va le rester pendant plusieurs siècles. Plus de 200 ans suite à Joseph. Oui.
Vous dites qu'ils progressent, mais est-ce qu'ils progressent ou ils peuplent?
Alors, ils progressent en richesse, c'est-à-dire en bétail et en biens, et ils progressent en nombre. C'est-à-dire que la population...
Oui.
C'est ça. Et ils deviennent, pour les Égyptiens, une sorte de menace. Parce qu'ils deviennent riches et parce qu'ils deviennent nombreux. Alors, ils vont rester là pendant un bon moment, mais Dieu avait fait à Abraham la promesse de lui donner une terre et un nom, c'est-à-dire une postérité particulière, par laquelle toutes les tribus de la terre seront bénies par lui. Comment est-ce que ça va se réaliser? Donc, le peuple hébreu est réduit en esclavage, et c'est un esclavage cette fois-ci qui est assez dur, qui va faire que ce peuple va perdre sa connaissance de Dieu, il va perdre une bonne partie de son identité aussi, parce qu'ils n'arrivent plus à faire ce qu'ils veulent.
Mais quand tu parles d'esclavage, tu sais, tu regardes des films des fois, comment est-ce qu'il était... faisait en tant qu'esclave, il était-tu à la merci de tout le monde pour faire juste rendre service à tout le monde, puis tout ça?
Alors, ils étaient employés comme main d'œuvre pour les constructions des Égyptiens. c'est des employés dont la vie ne vaut pas cher.
Ouais, non,
hein, c'est pas comme les esclaves dans la Rome du 1er siècle, par exemple, où les esclaves pouvaient être des professeurs qualifiés, etc. Okay. Là, on a vraiment des gens qui vivent au minimum et qui sont employés comme main-d'œuvre à bon marché.
C'est eux qui ont construit les pyramides. D'abord.
Alors, les pyramides étaient avant. Eux, ils ont construit des villes.
Ah, les villes.
Ils ont construit des villes pour les Égyptiens. Ils fabriquaient des briques, ils fabriquaient, c'était la main-d'œuvre pour les travaux forcés, quoi.
Puis c'était des gens qui n'étaient probablement pas très éduqués, non?
Alors, à cause de ça, ils ont perdu leur éducation, perdu leur connaissance. Beaucoup d'entre eux ne savaient probablement plus ni lire ni écrire. Ils avaient perdu la pratique aussi des commandements de Dieu. Ils avaient une chose en tête, c'est qu'ils étaient une ethnie à part, avec une promesse.
C'est tout ce qui se rappelait.
C'est à peu près tout ce qui reste. Le reste, c'est dilué dans le siècle, dans les siècles d'esclavage.
J'avais acheté un livre qui s'appelle La chronique de la Bible, super intéressant. Mm-hmm. J'ai tout relu cette semaine, puis mm-hmm. si je voulais, je vous prête. Ça explique tout ça, dans le détail. Plus.
Le développement de l'histoire,
ouais.
Ouais. Donc, esclavage. Ils perdent beaucoup. Oui.
Est-ce que j'ai une question?
Oui.
Mais je me demandais, tu sais, au niveau des pharaons qui étaient hébreux, finalement, tu sais,
Adam? Ben, pas hébreux, mais ils étaient, disons, c'était pas des Égyptiens.
Est-ce qu'on a des exemples de pharaons? Parce que, tu sais, on a quand même gros des vestiges des pharaons et tout ça, mais
oui.
On en a-tu des...
Oui, c'est toute une, y a toute une dynastie de pharaons qui vont monter sur le trône selon la tradition égyptienne. Mais qui, eux, ne seront pas d'origine égyptienne.
Ah, ok.
On a d'ailleurs, dans l'histoire, ça n'apparaît pas très fortement, mais on a le retour de l'histoire quand on arrive, par exemple, dans la 18e dynastie, qui est la dynastie où, en particulier, les prêtres vont reprendre les choses en main. Avec un pharaon dont on connaît le nom, c'est Toutankhamon. Qui a vécu pas longtemps, mais qui a été un outil entre les mains des prêtres pour reprendre en main le contrôle du pays. Avant lui, on avait eu un autre qui était Amenophis IV. Et Amenophis IV, qu'on appelait Akhenaton, avait développé un culte monothéiste en Égypte, ce qui est tout à fait bizarre.
C'est quoi ce monothéiste ?
Un seul dieu. Qui était le dieu soleil. Mais c'était tout à fait bizarre d'avoir un culte monothéiste dans un pays où la tradition est extrêmement polythéiste, où il y a des dieux de toutes sortes, et toute une légende qui va avec. Il y a eu une reprise en main des prêtres majoritaires à ce moment-là, qui correspond aussi avec une reprise en main du peuple égyptien. Ce qui nous montre que l'influence du peuple hébreu monothéiste, un seul dieu, a quand même été très forte pendant plusieurs siècles. Et malgré le fait qu'ils aient été esclaves, l'influence de ce peuple s'est fait sentir en Égypte. Au point qu'il y en a qui trouvent que finalement, les petits dieux, c'était pas fort. Alors, Moïse est là. Moïse, vous en lisez l'histoire aussi dans le livre de l'Exode. Moïse va, d'une façon miraculeuse, grandir au palais royal comme étant le fils adoptif de la princesse. Il est destiné à monter sur le trône, il est éduqué pour ça, mais il a en tête une chose, sauver son peuple. Il comprend qu'il n'est pas par hasard à la cour du roi et il comprend qu'il a une mission. Alors, il va l'accomplir, il veut l'accomplir par lui-même d'une façon très maladroite. Il tue un Égyptien, il doit s'enfuir. Il se rend compte qu'il a tout gâché. Et Moïse va se retrouver au désert pendant 40 ans, à garder des moutons. Après 40 ans, Dieu l'appelle et lui dit, « Mon ami, maintenant t'es prêt, retourne, va chercher mon peuple. » Et Moïse dit, « Non, pas question, rien à faire. » Négociation avec Dieu, Moïse va en Égypte. Et c'est le moment où les 10 plaies vont tomber sur l'Égypte parce que le pharaon d'époque ne veut pas laisser partir cette main-d'œuvre à bon marché.
Et pourquoi Moïse voulait pas retourner puis écouter Dieu?
Parce qu'il se sentait maintenant complètement grillé, brûlé.
Okay.
Il avait loupé son affaire. Et c'était bien ainsi parce que ce n'est qu'à partir du moment où il s'est rendu compte qu'il n'était pas capable de faire ce que Dieu lui demandait, qu'il était en mesure de le faire. par la puissance que Dieu allait lui donner, pas par sa force à lui.
Il ne se sentait pas capable de parler à plein de monde.
Alors, il n'arrivait plus à parler, il avait oublié la langue. Alors, Dieu lui envoie Aaron, qui connaît la langue, pour être son interprète. Toutes sortes de détails qui permettent, en tout cas, finalement, au peuple de sortir d'Égypte. En sortant d'Égypte, le peuple va pratiquer pour la première fois la Pâque. La première Pâque va être pratiquée le jour où ils vont, la veille du jour où ils vont quitter l'Égypte. On en reparlera plus tard. Mais le peuple va, sous la direction de Moïse, partir vers la terre promise, vers la terre qui était promise à Abraham. Mais ce peuple-là est un peuple qui est à rééduquer de A à Z.
Non, mais en fait,
Moïse a passé 40 ans tout seul.
Tout seul. Okay.
Et puis après, il va chercher le peuple et il va repasser 40 ans dans le désert de nouveau. Oui, ben, il garde les moutons, mais enfin, il n'est pas avec le peuple, je veux dire. Maintenant, le plan de Dieu aurait été que ce peuple puisse aller directement dans la terre promise. Mais il y a une éducation colossale à faire, tout est à faire. Il y a d'ailleurs parmi eux un certain nombre d'Égyptiens qui sont partis parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient meilleur temps de se mettre du côté gagnant. Donc quand ils ont vu arriver les plaies, ils se sont dit « Oulala, on va se sauver avec eux ». Donc avec le peuple qui part dans le désert, il y a un certain nombre d'Égyptiens qui sont avec eux et qui n'ont pas du tout cet arrière-plan de relation avec Dieu. Ils sont à l'origine de l'événement du veau d'or et des rébellions, etc. C'est eux qui ont mis la pagaille, principalement pendant ces épisodes, dans les 40 années, dans le désert. 10 plaies. 10 plaies, vous les avez dans les premiers chapitres de l'Exode, où Dieu va faire tomber des malheurs sur l'Égypte, les uns après les autres, parce que le Pharaon dit « pas question de vous laisser partir ». Donc c'est un bombardement pour l'Égypte, de façon à ce qu'il les laisse partir.
Mais là, dans ce moment-là, c'était vraiment la lignée d'Abraham qui était importante, c'était vraiment le peuple hébreu, mais oui. Je ne comprends pas pourquoi les Égyptiens ont pu se fusionner à ça, si c'était si important la lignée d'Abraham.
Alors, à partir du moment où les étrangers étaient prêts à rentrer dans l'alliance avec les Hébreux, dans l'alliance que Dieu avait faite avec eux, où ils acceptaient finalement après d'être circoncis, ils étaient intégrés au peuple.
Ok, ce n'était pas tant héréditaire.
Alors, ça l'était. Mais les Hébreux l'ont rendu hermétique beaucoup plus que Dieu ne voulait le rendre hermétique. Dieu a voulu utiliser ce peuple pour faire connaître sa loi. Eux, ils l'ont interprété comme chasse gardée, ce qui n'était pas le plan de Dieu. Donc on a plusieurs exemples dans l'histoire suivante où des étrangers sont rentrés dans le peuple de Dieu parce qu'ils ont accepté l'alliance que Dieu avait faite. On a là par exemple Ruth. Non, c'était la belle-fille, ça c'est Rahab, c'est un autre exemple. Ruth, c'est la belle-fille de Naomi. Voilà, c'est ça, exact. Qui a aussi été intégrée, et c'était une Moabite, dans des ennemis numéro un des Hébreux. Donc Dieu ne voulait pas en faire une chasse gardée de ce peuple-là, mais voulait faire un outil de travail exclusif.
La circoncision ?
Ouais.
Alors la circoncision, on en reparlera plus tard, c'est un signe d'alliance. Et c'est un signe d'alliance qui est intéressant parce qu'il est placé sur le sexe. Parce que Dieu avait fait une alliance en faisant de ce peuple ses enfants et en étant lui le père. Quand Jésus prie et dit « notre père », il n'a rien inventé. C'est simplement référence à l'alliance qui était faite avec Abraham. Et dans ce sens-là, tous ceux qui sont les enfants du père sont dans l'alliance. Raison pour laquelle, par exemple, les évangiles commencent par des généalogies. La généalogie de Matthieu remonte jusqu'à Abraham, parce qu'elle s'adresse à des Hébreux. Mais la généalogie qui commence l'évangile de Luc, par exemple, remonte jusqu'à Adam, parce qu'elle s'adresse à des non-juifs. Et vous remontez un tel fils d'Adam, fils de Dieu. Adam est présenté comme fils de Dieu. Et tous ceux qui sont dans la descendance et dans l'Alliance, sont considérés fils de Dieu. On retrouve cette notion-là dans le Nouveau Testament, d'ailleurs. D'où le signe sur le sexe. Alors, le peuple se promène dans le désert pendant 40 ans, Moïse va mourir et sera conduit par Josué, qui va le faire entrer dans la fameuse terre promise. À partir de là, le peuple va être conduit par des juges, il y en a 12, le dernier étant Samuel. Il y en a un que vous connaissez bien, c'est Samson. Le costaud.
J'ai été surpris de lire que tous les juges, dans le fond, c'était tous des... pas des cavaliers,
des guerriers.
Des guerriers.
Oui.
Qui prenaient le territoire.
C'était des gens qui prenaient le peuple en main pour défendre le territoire essentiellement.
Les juges, comme on pense aux juges aujourd'hui.
Ouais. Mais leur rôle essentiel dans les Écritures est un rôle de défense du peuple.
Ouais, c'est ça.
Essentiellement.
Okay.
Ouais.
De défense ou d'acquisition ou de
non. Non, de défendre le peuple, ils réquisitionnent des gens et ils mettent l'ennemi dehors. Du temps de Samuel, le peuple va dire, nous on en a marre, on veut aussi un roi comme tout le monde. Samuel est choqué, il en parle à Dieu, Dieu lui dit, ils veulent un roi, ben donne-leur leur roi, explique-leur ce que ça va leur coûter. Et Dieu nomme Saül, qui sera oint premier roi d'Israël. Saül va bien commencer, mais il va se prendre pour ce qui n'est pas, et il va croire qu'il peut tout faire tout seul, il va envoyer promener le prophète, Dieu, tout le monde. Et finalement, après un grand nombre d'années, il va vraiment mettre Dieu de côté. Dieu va choisir David pour le remplacer. Et Saül va tout faire pour faire mourir David. Finalement, David va monter sur le trône, le grand roi David, qui avec son fils Salomon, va donner au peuple hébreu son identité et sa grandeur nationale. Salomon va construire le temple de Jérusalem, d'après les plans que David aura fait, et qui va permettre de donner une résidence permanente et glorieuse au sanctuaire qui avait été construit dans le désert et qui était démontable. Et on parlera du sanctuaire plus tard. Après Salomon, dispute et le peuple se coupe en deux. Le peuple hébreu se coupe en deux avec 10 tribus au nord, on va les appeler le peuple d'Israël, capitale Samarie, 2 tribus au sud, Juda et Benjamin, qu'on va appeler le peuple de Juda, en raccourci, capitale Jérusalem. À partir de là, ces deux peuples frères vont parfois s'entendre très bien, parfois même se faire la guerre. Mais c'est à ce moment-là qu'on va avoir aussi un bon nombre de prophètes. Vous les avez sur la ligne d'en haut, un certain nombre d'entre eux. Parce que le peuple, à partir de ce moment-là, va descendre dans l'apostasie. On a même des textes de l'Ancien Testament qui nous disent que le peuple a fait pire que les païens d'à côté, jusqu'à faire des sacrifices humains, en recopiant ce que les autres autour d'eux faisaient, d'une façon courante. Prostitution sacrée, rejet de Dieu, et on va même avoir à un moment des gens qui vont faire dans le temple de Jérusalem un culte du soleil, dans le temple même de Jérusalem. Donc on a à cette période-là vraiment des hauts et des bas, mais beaucoup plus de bas, et les prophètes disent au peuple, attention, 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 revenez à Dieu. Sinon, il va se retirer. Et c'est ce qui est finalement arrivé et qui a donné lieu à la déportation à Babylone. Les Babyloniens sont venus en 3 épisodes et ils ont fait 3 déportations à Babylone. La première est particulièrement intéressante pour nous. Elle a lieu en 605, 606 avant Jésus, parce que c'est la déportation qui va emmener Daniel à Babylone, qui est un prophète majeur, pour ce qui concerne les prophéties dont on parlera plus tard. On a à cette époque de la déportation 3 prophètes majeurs, Jérémie qui est avant et pendant, Daniel qui est pendant, et Ézéchiel aussi qui est à un autre endroit pendant la déportation à Babylone. Cette déportation, selon le prophète Jérémie, devait durer 70 ans. À la fin des 70 ans, plusieurs édits seront faits pour permettre au peuple de reconstruire le temple, la ville de Jérusalem, dans des conditions difficiles. Le temple ne sera plus ce qu'il était, il est beaucoup moins glorieux, et le peuple ne sera plus jamais autonome. Ils vont toujours être sous la domination d'un autre peuple. Alors là, ils sont sous la domination, ils ont été pris par les Babyloniens, ensuite ils sont passés à la domination des Mèdes et des Perses, qui ont fait tomber Babylone en 539, et lorsqu'ils reviennent, ils vont finalement être sous la domination des Grecs et puis sous la domination des Romains, qu'ils vont eux-mêmes inviter à venir, parce qu'ils en avaient tellement marre des Grecs qu'ils voulaient s'en débarrasser. Donc ils ont dit aux Romains, venez nous débarrasser de ces gens, on vous ouvre les portes. Alors les Romains ont dit, pas de problème, on arrive, ils sont venus, puis ils sont restés.
C'est là que tu me parlais l'autre fois, la barre entre les chicanées, là, dans le même raccoin, là, je suis bien. Tu sais, l'autre fois, là, tu avais montré une map, là. C'est là que tu montrais que c'était dans le centre.
C'est une... Ben, la période des rois, en particulier, juste avant la déportation, c'est une période où c'est constamment la guerre entre l'Égypte, au sud, et la Babylonie, qui est à l'est, mais qui passe toujours par le nord, parce qu'il y a le désert qui gêne au milieu. Donc, la Palestine, où se trouve Israël, en particulier, est un couloir où tout le monde vient se battre là. Alors, après la déportation, on va reconstruire le temple, on va remettre tant bien que mal le peuple sur pied, mais ça ne sera plus comme avant. Le peuple va être tenu constamment. Les Romains vont faire avec eux des alliances particulières parce qu'ils n'ont pas été vaincus. C'est eux qui les ont invités à venir. Donc, il y a quand même avec les Juifs des arrangements un petit peu différents, des arrangements qui sont faits avec les peuples vaincus. Raison pour laquelle, au temps de Jésus, on a une situation bizarre, où le gouverneur romain a le dernier mot, en principe, mais le Sanhédrin, qui est l'assemblée gouvernante juive, a quand même autorité. Et dans le procès de Jésus, on se rend compte que les Juifs savent comment manipuler les Romains pour leur faire faire ce qu'ils veulent. Alors c'est la petite guéguerre pendant des siècles, ça se bat, ça se tue. C'est aussi, après Jésus, une période de guérilla où les Juifs veulent mettre les Romains dehors, toutes sortes de faux Christ apparaissent, de faux libérateurs, qui se font tuer, et des révoltes se succèdent les unes après les autres. Chaque fois qu'il y a une révolte, les Romains interviennent, et puis c'est un bain de sang, donc c'est constamment ce genre de choses, jusqu'à ce que, en 70, Jérusalem soit détruite. Ils vont à part ça, avant ça, à partir des années 66, saccager pas mal le reste du pays alentour. Un premier siège va avoir lieu en 66, et puis ils vont revenir en 70, et cette fois-ci, Jérusalem sera détruite. Les Juifs vont être massacrés. On considère qu'il y a plus d'un million de Juifs qui vont mourir à Jérusalem et alentour. Et c'est véritablement la fin du peuple juif. À partir de là, on est donc là à ce point zéro que vous avez sur le diagramme, avec la croix là qui représente Jésus. Il y a sur le diagramme des choses qu'on verra plus tard qui concernent la prophétie, du livre de Daniel en particulier. Après cela, l'histoire de l'Église chrétienne va commencer. Les premiers chrétiens sont essentiellement des Juifs convertis. C'est ce qu'on a par exemple dans Actes chapitre 2. On a essentiellement des Juifs, des sacrificateurs, qui se convertissent. Et puis peu à peu, avec l'apôtre Paul en particulier, la propagation de l'Évangile va rejoindre des populations non juives. Ainsi, le christianisme va peu à peu s'étendre, en particulier dans ce qu'on appelle l'Asie mineure, qui est aujourd'hui la Turquie. Et puis ça va passer à la Grèce. Et l'apôtre Paul, on le sait d'après ses épîtres, avait l'intention d'aller jusqu'en Espagne. C'est d'autres qui feront ce travail-là. L'Église va se répandre un petit peu, mais l'Église va être persécutée. L'Église chrétienne va être persécutée pour plusieurs raisons. Elle va être persécutée par les Juifs parce que c'est une secte avec ce Christ qu'ils ne reconnaissent pas. Et puis, ils vont être persécutés par les Romains parce que les chrétiens vont refuser en particulier le culte de l'empereur. Les empereurs, comme beaucoup de rois d'Antiquité, voulaient se faire adorer. Alors, les chrétiens ont dit, pas question, nous, on adore Dieu, on adore Christ. Ah, non, rien à faire. Si vous adorez pas l'empereur, ben vous allez dans le cirque avec les lions. Alors l'Église. L'Église chrétienne naissante a été persécutée par les Romains. Elle va subir toutes sortes de modifications parce que les Romains persécutaient les Juifs, mais les chrétiens étaient associés aux Juifs. Et ils ont voulu absolument se dissocier des Juifs pour éviter d'être persécutés comme des Juifs. Certains l'étaient, mais d'autres étaient simplement des Grecs convertis. Alors ils ont voulu se dissocier des Juifs de façon à ce que de l'extérieur, on fasse vraiment la différence entre les Juifs, mais nous on n'est pas des Juifs. C'est ainsi qu'ils ont modifié un certain nombre de choses. Au lieu d'observer le sabbat, ils étaient tentés d'observer un autre jour pour ne pas être associés au signe numéro un que les Juifs avaient, l'observation du sabbat par exemple. Et ainsi, les chrétiens ont pensé sortir d'affaires, mais ils ont été persécutés de la même manière. Jusqu'au IVe siècle, où on a, à la fois au IVe siècle, la désintégration de l'Empire romain, où les empereurs ne sont plus que des marionnettes, à peu près, et où on a l'apparition du fameux Constantin. qui, par politique essentiellement, poussée par sa mère, Elena, qui va devenir chrétienne, va se dire, j'ai meilleur temps de me mettre avec, if you can beat them, join them. La force montante du christianisme va m'amener Constantin à se dire, si je veux m'en sortir, j'ai intérêt à me mettre avec ceux qui avancent, pas avec ceux qui reculent. Et c'est ce qu'il fait. Il va donc devenir chrétien et christianiser l'Empire romain. Seulement, c'est une christianisation politique, pas par conversion. Ce qui veut dire que les gens vont finalement amalgamer des notions de christianisme avec leur paganisme connu. Les prêtres de la religion précédente vont être tout simplement les prêtres chrétiens et puis vont faire leur sauce à eux, sans connaître les Écritures, sans avoir une transformation intérieure, sans être convertis. C'est à partir de là qu'on va avoir des transformations majeures dans l'enseignement chrétien et des modifications majeures dans les pratiques et dans les croyances. Alors l'Église chrétienne va avancer au travers des hauts et des bas. L'Église chrétienne va arriver dans le Moyen-Âge. Et là, l'Église chrétienne ne va pas vraiment avancer. Ceux qui la feront avancer, ce sont certains ordres monastiques qui vont aider les gens avec la santé, avec l'éducation, avec l'agriculture. On va arriver à la pré-Renaissance. Et là, cette époque-là va amener des gens à reconsidérer leur foi en mettant-les dans les Écritures. C'est ce qui va donner la réforme. Au XVIe siècle, plusieurs réformateurs vont sortir dans différents pays d'Europe avec la même perspective. Réformer l'Église. Ils se rendent compte que l'Église, avec les traditions et le paganisme, s'est écartée énormément de ce que la Bible enseigne. Bible qui était d'ailleurs totalement interdite. Mais eux vont chercher les textes, relisent les Écritures et se rendent compte que ça ne correspond plus. Autrement dit, on va réformer l'Église, c'est-à-dire remettre l'Église sur les rails. Seulement, l'Église ne le veut pas. L'Église va mettre en route la contre-réforme, c'est-à-dire une résistance pure et dure, ce qui veut dire que les réformés ne vont pas être des réformés, mais vont devenir des protestants, des rebelles, des gens qui protestent contre ce que l'Église fait, enseigne, etc. Là, c'est la coupure. Les églises protestantes de différentes traditions, qu'elles soient issues de Luther, de Calvin, de Zwingli, de Knox en Angleterre, vont chacune se développer avec une base commune en tout cas, c'est la remise à jour des bases du plan du salut. On n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est pas sauvé en donnant des indulgences, en payant de l'argent, on n'est pas sauvé en faisant du bien, on est sauvé par la grâce que Jésus-Christ nous apporte grâce à ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Cette base commune va permettre à l'Église protestante réformée de grandir et de se développer d'une façon diversifiée en fonction de l'enseignement des réformateurs. Ils vont donner une couleur à leur Église, que l'on retrouve encore aujourd'hui d'ailleurs avec un certain nombre d'enseignements un peu différents, suivant les traditions d'où ces églises sont sorties. Et dès que ce sera possible, l'Église va persécuter. On a les persécutions qui vont reprendre. Beaucoup de réformateurs passent de justesse à côté de la mort, beaucoup d'autres la subissent. Je pense à Jean Hus, à Savonarole et à d'autres qui ont été brûlés au bûcher parce qu'ils avaient été dans les Écritures pour rechercher ce qui est la vérité. Alors, on est effectivement dans le 15e et 16e siècle. Alors, ça s'étale sur plusieurs siècles. On a les pré-réformateurs dans les années 1400. On a les Vaudois, on a les réformateurs dans les années 1500 avec les grands canons, Luther, Calvin, Mélenchon, John Knox, etc. Et puis, on va arriver à la fameuse époque du roi Soleil, que vous connaissez bien, le fameux Louis XIV, qui va persécuter, c'est les fameux Huguenots qui sont persécutés par les dragons du roi. Là, les armées du roi, c'est là qu'on va brûler les Bibles, qu'on va emmener les femmes en prison, mettre les hommes aux galères, mettre les enfants dans les couvents. C'est une époque difficile pour l'Église protestante.
Parce qu'ils perdaient du pouvoir.
Oui, ils vont perdre des gens. Mais c'est aussi le moment où l'Église est probablement la plus cramponnée à Dieu. C'est l'Église du désert. C'est l'Église qui a ses pasteurs du désert, qui vont de lieu en lieu itinérant, qui font les assemblées du désert. c'est probablement le moment où l'Église est la plus fervente. Et quand on parle aux protestants des Huguenots, des descendants des Huguenots, leur identité est encore là, dans cette époque des persécutions, etc.
Mais pourquoi, est-ce que ta question, c'était pourquoi ils persécutaient autant?
Oui, c'est ça, mais... Okay.
Ben, ils persécutent parce que ce sont des hérétiques.
Mais c'est parce que c'était la religion catholique à l'époque, oui. Ils ne voulaient pas perdre, parce que c'était beaucoup de oui. politique là-dedans. Oui. Ils ne voulaient pas perdre des gens.
Ah oui, l'Église catholique ne voulait pas perdre. Oui, c'est ça. L'Église ne voulait perdre ni son influence, ni. Ouais. De toute façon, ces gens-là étant des perdus. On a cette phrase devant. Ça, c'était la lutte contre les cathares. Les représentants du pape devant cette forteresse cathare, le général leur dit bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? On est en train de prendre le siège de cette ville. Et le général leur dit écoutez, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Donc voilà la mentalité qu'on a à ce moment-là. Hein. Alors, je vais juste terminer l'histoire qu'on a là. On va finalement avoir une espèce de cessez-le-feu qui va permettre aux protestants et aux catholiques de vivre sans trop de persécution et qui va permettre à l'Église protestante de s'étendre et de vivre en paix, en partie, parce qu'il va y avoir des soubresauts de persécution. La Saint-Barthélemy, par exemple, ou... L'Église catholique va organiser en une journée une espèce d'éradication de cette race-là des protestants. Mais c'est aussi le moment où, à cause des persécutions, les protestants s'en vont. Quittent la France, quittent les endroits où on a la persécution. Ils vont monter en Hollande. Beaucoup de Huguenots vont partir en Hollande, vont partir en Suisse. Et ces pays-là vont servir de tremplin pour un certain nombre de gens qui vont partir en Amérique du Nord. Et les États-Unis vont se construire sur une base de liberté religieuse parce qu'elle est faite par des gens qui ont fui la persécution, beaucoup d'entre eux. Donc c'est une vague qui va arriver après les aventuriers, mais ceux qui sont les pères fondateurs des États-Unis veulent construire quelque chose qui ne va pas ouvrir la porte à la persécution qu'ils ont fui en Europe. Maintenant, assez vite, quand l'Église protestante n'est plus persécutée, et ça arrive pas seulement à ce moment-là, c'est une généralité, quand tout va bien, on s'assied sur ses lauriers. Et l'Église protestante va commencer à s'endormir, à rentrer dans le formalisme, dans le ritualisme, etc. C'est la raison pour laquelle, entre 1750 et 1850, il va y avoir ce qu'on appelle le Grand Réveil, qui est en fait la réforme de la réforme. C'est un mouvement différent qui va démarrer avec des gens qui n'ont pas de lien les uns avec les autres et qui se retrouvent un petit peu dans le monde entier. Des gens un petit peu partout qui vont remettre le nez dans les Écritures et en particulier dans les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse et qui vont réaliser que ces prophéties sont en grande partie déjà réalisées et qui comprennent que tout d'un coup, on approche du retour du Christ. Le Grand Réveil va être un mouvement de réveil des églises protestantes, souvent, pas toujours, mais souvent avec une perspective prophétique. Félix Neff, par exemple, en France, n'avait pas une perspective prophétique, mais Gossen et les autres ont cette perspective avec l'idée « Jésus revient bientôt, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on est prêt ?» De ce mouvement-là vont naître plusieurs églises de la famille protestante qui sont encore là aujourd'hui et on arrive maintenant dans les années 2000 et des. Alors le diagramme s'arrête parce que voilà, on n'a plus en réalité d'indications bibliques chiffrées dans les prophéties après 1844. 1844 est le dernier élément prophétique biblique sur lequel on peut mettre le doigt. C'est-à-dire qu'après ça, c'est l'élastique jusqu'au... Oui, c'est ça, Daniel 8. Après ça, c'est le retour de Jésus. Si on veut des détails sur ce qui se passe entre les deux, il faut qu'on aille dans l'Apocalypse, où on a un certain nombre d'informations prophétiques sur l'avant-retour de Jésus. Mais pas de notion, pas de prophétie qui nous permettent de mettre des points de repère précis. Souvenez-vous, Jésus avait dit, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et nous sommes dans cette période, quelque part, entre 1844 et le retour de Jésus. Donc je crois que la perspective des gens du grand réveil est encore plus actuelle pour nous que pour eux, dans la mesure où nous vivons encore plus près du retour de Jésus qu'eux. Ça, c'est le survol de toute l'histoire biblique. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est avancer avec vous dans l'histoire du livre. Le livre que vous avez entre les mains, d'où vient-il? Comment est-ce qu'il est arrivé en papier, encre et carton sur la table? Est-ce que ce livre est crédible? Est-ce que je peux véritablement avoir confiance dans ce livre comme étant la parole de Dieu? Ou est-ce que, comme beaucoup de gens le disent aujourd'hui, c'est simplement un bouquin écrit par des hommes? Maintenant, je voudrais aller plus loin. Vous avez sur votre diagramme des indications que nous allons regarder maintenant. Repérez, sur votre diagramme, repérez Moïse. Là où il y a les deux tables de la loi. Tiens, au fait, juste un petit truc. Ne dites pas ça à des historiens parce qu'ils vont m'arracher la tête. Mais, pour nous faciliter, nous, dans notre compréhension des choses, de manière à mettre les morceaux plus ou moins au bon endroit. Vous avez des points de repère dans l'Ancien Testament, bien connus à peu près tous les 500 ans. C'est à peu près. En gros, regardez, vous avez des points de repère connus tous les 500 ans environ. Alors, prenez Jésus. Vous reculez de 500 ans, vous arrivez à la déportation à Babylone, avec Daniel. Vous reculez de 500 ans encore et vous êtes à moins 1000, vous arrivez à David. Vous reculez de 500 ans encore, moins 1500, vous arrivez à Moïse. Vous reculez de 500 ans encore, vous êtes à moins 2000, vous arrivez à Abraham. Vous reculez d'un petit 500 ans et vous arrivez au déluge. C'est pour, une idée
Moïse,
hein? Pour donner une idée du panorama. Hein? Vous reculez, vous avez moins 500, vous avez la déportation. Moins 1000, vous avez David. Moins 1500, vous avez Moïse. Moins 2000, vous avez Abraham. Moins 2005, vous avez le déluge. Et puis vous avez 1500 gens environ jusqu'à la création. En gros, juste pour vous donner les grandes lignes. Maintenant, regardez Moïse. Et vous avez tout en dessous marqué révélation de l'Ancien Testament. Moïse est le premier écrivain de l'Ancien Testament. Les écrits les plus anciens que nous avons ont été écrits par Moïse et ce sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les cinq livres de Moïse. On va appeler la Torah, la loi. Qu'on appelle dans vos Bibles, quand vous regardez la table des matières, le Pentateuque. Ce qui veut dire Pinta, 5, Teuk, livre. Moïse est donc le premier écrivain biblique 1500 ans avant Jésus. Et vous allez avoir les différents écrits bibliques qui vont s'étaler depuis Moïse jusque environ 400 avant Jésus. On n'est pas absolument sûr qui est le tout dernier écrivain biblique, mais c'est probablement Néhémie, peut-être Malachie. Le dernier dans le temps. Donc en fait, les livres de l'Ancien Testament ont été écrits sur une période approximative de 1000 ans entre Moïse et 400 avant Jésus.
Par combien de Moïse qui n'a écrit plusieurs, les autres c'est...
Les autres c'est les prophètes que vous avez là-haut. Il y en a plusieurs qui ont écrit. Maintenant, dans la période suivante, c'est-à-dire de 400 jusqu'à Jésus, on a la fameuse période appelée intertestamentaire, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui est une période extrêmement agitée pour le peuple hébreu. C'est une période de rébellion, c'est une période de guerre, c'est une période essentiellement où le peuple veut essayer de retrouver son indépendance et n'y arrive pas. C'est l'époque des Maccabées, une famille qui essaye de reprendre les choses en main, qui va se faire massacrer, etc. C'est cette époque-là. Ça, c'est pour l'Ancien Testament, qu'on va y revenir. Le Nouveau Testament, juste en dessous de la croix que vous avez, il y a un petit NT. On n'a pas pu écrire plus que ça, parce que le Nouveau Testament, lui, a été écrit entre 50 et 100 de notre ère. L'Ancien Testament a été écrit sur une période de 1000 ans, mais le Nouveau Testament a été écrit sur une période de 50 ans. Voilà notre Bible. La question est simple. Nous vivons au XXIe siècle et nous avons tous des Bibles imprimées, mais on n'a pas les originaux de ce que Moïse a écrit. On a les originaux de personne. On n'a pas ce que Ésaïe a écrit, on n'a pas ce que Moïse a écrit, on n'a pas non plus ce que Esdras, Néhémie ont écrit. On n'a pas non plus ce que Matthieu, Marc, Luc, Jean ou Paul ont écrit de leurs mains. On ne les a pas. On a simplement des copies. On a simplement le résultat de multiples copies au travers du temps. La question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre le texte que Moïse, lui, a écrit, inspiré par Dieu, et ma Bible que j'ouvre aujourd'hui, Deutéronome, Genèse, Exode. Est-ce que ce que je lis, c'est ce que Moïse a écrit?
Avais-tu du papier et toute la kit pour écrire dans ce temps-là? Non.
Alors, ils avaient autre chose pour écrire. Ils avaient des parchemins en particulier, c'est-à-dire des pots, et ils avaient des papyrus, c'est-à-dire du végétal tissé sur lequel ils écrivaient, en particulier en Égypte, dans le sud. Ils avaient de quoi écrire, mais vous connaissez le jeu du téléphone. Hein? Si je donne une phrase à Marianne et puis que ça fait le tour, Alain, je ne sais pas ce qu'il va me dire à la sortie. On peut toujours ne pas croire. Dieu fait en sorte que personne ne soit obligé de croire. La Bible n'est pas un livre de maths où 2 et 2 font toujours 4. Je crois que Dieu, dans son amour, va nous donner, au fur et à mesure du temps, des indices, entre guillemets des preuves. Il va agir de manière à ce que nous puissions le reconnaître le long du chemin et voir comment sa main a agi et a protégé. Mais si, malgré ça, je décide que je ne veux pas croire, j'ai toujours cette liberté-là. C'est là que rentre en jeu la question de la foi, qui n'est pas de croire dans le vide, mais qui est de croire sur la base d'une expérience avec Dieu. La question maintenant est de savoir, ces manuscrits, ces livres écrits par les auteurs bibliques, qui eux ont été inspirés de Dieu, est-ce que je peux avoir l'assurance que ce que je lis, c'est ce que ces gens ont écrit? Alors, on va commencer d'abord par l'histoire de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de tout ce qui a été écrit entre Moïse et Néhémie Malachie. Jusqu'il y a pas très longtemps, les textes que l'on avait étaient essentiellement des textes, des manuscrits, qui dataient du 10e siècle, 11e siècle et au-dessus. Donc les années 900, 1000. Ça, c'est les plus vieux qu'on avait. Alors, je vous en mentionne juste quelques-uns qui sont à mentionner parce que vous entendrez peut-être ça. Le manuscrit de Leningrad qui est de l'an 1008-1009 et qui contient tout l'Ancien Testament dans la tradition massorétique. Alors, qu'est-ce que c'est que les massorètes? Les massorètes, ce sont des moines juifs qui ont travaillé entre le 5e siècle et le 10e siècle environ de notre ère, et qui avaient pour mission essentielle la préservation du texte biblique. Et ils se sont fait connaître pour leur minutie à reproduire le texte. Ils recopiaient les manuscrits qui étaient devenus usés, difficilement utilisables, et ils les recopiaient pour les rendre le plus accessibles possible aussi. Et ils avaient des règles extrêmement strictes. Ils avaient, par exemple, chaque page avait deux marges, la grande massore et la petite massore, d'où les massorettes. Dans la grande massore, ils mettaient des notes sur ce qu'il y avait dans le texte, des villes qui avaient changé de nom, ou des indications d'autres textes, des notes. Et dans la petite massore, ils mettaient des indications techniques. C'est-à-dire, dans cette page, il y a tant de mots. Dans cette page, il y a tant de fois le nom de Dieu. Le mot du milieu, c'est le mot un tel. Il y a tant de verbes, etc., etc. De façon à ce que le moine qui, un siècle ou deux après, allait recopier, pouvait faire la vérification si dans sa copie, le mot du milieu, c'était aussi celui-là. S'il y avait autant de fois le nom de Dieu, s'il y avait le même nombre de mots. Et s'il y avait une erreur, on déchire, on recommence.
Tout à mi-terme, il n'y a pas de vouloir le faire.
Avec une précision, on écrit, mais mettez-vous un peu dans la peau de ces gens. Ces gens avaient conscience d'être les écrivains de la parole de Dieu. Ça veut dire que quand on arrive au nom de Dieu, on va se laver les mains, on fait des ablutions pour se purifier, on change de plume et on écrit le nom de Dieu. Et s'il y a trois fois le nom de Dieu sur la ligne, on changera de plume trois fois et on ira se purifier trois fois. Non, les massorètes avaient pour objectif de transmettre la parole de Dieu sans faute.
Ça, c'est ceux du manuscrit de Leningrad. C'est les massorètes.
Alors, le manuscrit de Leningrad n'est pas un texte massorétique direct. Il est la reproduction d'un texte massorétique. Mais c'est ça.
Avant les massorètes, parce qu'on s'entend que ceux que ça faisait genre 2000 ans qui avaient été par Moïse, ça devait être déjà désuet depuis longtemps.
Alors, c'est ça la question. Les massorètes ont transmis des manuscrits que l'on avait du 10e siècle, 11e et 12e, avec la tradition massorétique, mais avant. Avant, on n'avait que des fragments de l'Ancien Testament, des morceaux, par exemple. Alors, je vais vous parler d'un morceau intéressant, qui a un nom épouvantable, qui s'appelle Ephraimi Rescriptus. Ça s'appelle un palimpseste. Vous savez, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un palimpseste? Tout à l'heure, vous posiez la question, sur quoi ils écrivaient? Ils écrivaient essentiellement sur des peaux, qu'on appelle des parchemins.
Il y a placé des parchemins, ces peaux-là.
Voilà, okay. Qu'on coupe, d'accord. Qu'on coud ensemble, et on en fait les fameux rouleaux. Ces parchemins-là, ils étaient extrêmement chers. Ce n'était pas comme on va acheter du papier et puis ça passe dans l'imprimante comme ça. Ce qui fait qu'ils les économisaient. Quand ils avaient un parchemin où l'écriture n'était plus bonne, difficile à lire, etc., ils le grattaient et ils écrivaient autre chose dessus. Ce texte que je vous mentionne, Ephraimi Rescriptus, c'est un palimpseste, c'est-à-dire c'est un texte. Le texte biblique a été écrit un jour. Il est devenu de mauvaise qualité. Les gens qui l'avaient l'ont gratté et ils ont écrit autre chose par-dessus.
Par rapport au texte biblique.
Qui n'a rien à voir avec le texte biblique, qui est un texte de littérature de l'époque. Le tout du tout, c'est de retrouver le texte qui était écrit en dessous, de faire ressortir ça. Et il y a un savant autrichien dans les années 1800 qui a travaillé à ça pour faire ressortir le texte d'origine qui avait été gratté. Et qui contient des morceaux de l'Ancien Testament du 5e siècle après Jésus. Donc c'est vieux, mais on n'a que des morceaux et qu'il faut les rechercher en deuxième lecture dessous. Donc vous voyez un petit peu parfois le travail incroyable à faire pour pouvoir redécouvrir le texte biblique. Mais l'important à mentionner, c'est les manuscrits de la Mer Morte. L'histoire, vous pouvez la lire un petit peu partout, je vous en donne un résumé. Après la guerre, 1947, en Palestine, c'est-à-dire dans un endroit qu'il faut que je vous montre sur la carte. Vous avez ici une carte de la Palestine géographique. Alors, vous avez ici la mer morte, morte parce qu'elle est 400 mètres en dessous de la mer et qu'elle ne débouche sur rien. Elle est alimentée par le Jourdain qui coule ici.
C'est pas cette mer-là qui est très, très salée?
Oui, c'est ça, oui. Okay. Je ne sais plus, c'est très salé, on flotte. On flotte. Alors, le Jourdain alimente cette mer, elle sort du lac de Galilée qui est là au nord, et le lac de Galilée est alimenté par le Jourdain qui descend du mont Hermon, beaucoup plus haut. Cette mer morte, en fait, est dans une cuvette. Parce que quand vous venez de Jérusalem et que vous allez à la mer morte, il y a Jéricho, par exemple, qui est tout en haut de la mer morte. Vous descendez, vous descendez, vous descendez, puis vous voyez tout d'un coup un panneau niveau de la mer et vous voyez Jéricho tout en bas, en dessous du niveau de la mer. On est dans une cuvette, on est dans un climat très sec. Ce dont on parle se situe ici, au nord de la mer morte. Au nord de la mer morte, il y a ici un passage, comme vous voyez en vert un petit peu le long, là. Hein. Il y a un monastère juif, des gens qu'on appelle les Esséniens. Et ces gens-là vont subir la destruction des Romains juste avant la destruction de Jérusalem, quelque part autour de 66-68 de notre ère. Les Romains vont détruire tout ce qu'ils peuvent pour éviter que Jérusalem ait du soutien d'ailleurs. Donc ce monastère va être détruit par les Romains. Mais ces moines, sentant venir le malheur, vont prendre leur bibliothèque et vont aller cacher leurs livres, les rouleaux, dans les grottes environnantes. pour sauver l'héritage. Ça va rester comme ça jusqu'en 1947. 1947, il y a dans cette région-là des bédouins avec leurs chèvres. Il y en a un qui perd sa chèvre. Et puis, il va à la recherche de sa chèvre et il pense qu'elle est tombée dans une de ses grottes quelque part. Il jette des pierres dedans pour voir s'il y a quelque chose qui réagit. Et en jetant une pierre dans une de ses cavernes, il entend que sa pierre casse de la vaisselle. Alors, il y rentre et il découvre ceci. Des jarres en terre qui ont 80 cm environ, avec un bouchon que l'on scelle avec de la cire d'abeille. Et dans ces jarres, des vieux parchemins. Alors, vous remarquez qu'il y a régulièrement des coutures. C'est les peaux qui sont cousues ensemble. Et elles sont roulées. Alors, on n'a pas besoin de faire ce que j'ai fait. Quand on veut lire, on commence à lire. On lit ici, et puis quand on a fini, on roule là, et on a toujours une page devant soi. Hein? Dans ces jarres, il y a des manuscrits. Bonne affaire, ça peut faire de l'argent. Ces documents vont passer par des péripéties incroyables. C'est toute une histoire, il y a plusieurs livres qui ont été écrits pour raconter toutes ces péripéties. D'abord, ça n'a pas attiré beaucoup d'excitation, parce que les gens ne savaient pas ce que c'était. Voilà les ruines du monastère avec le genre de montagnes qui sont derrière.
Okay. C'est assez sec, hein?
Oui, c'est
dans les montagnes,
et dans ces cavernes-là. C'est ça, dans l'arrière-pays de ça, oui, il y a un grand nombre de grottes où ils avaient caché leurs livres. Alors ça, c'est le monastère de Qumran.
Jusqu'avant 1947, on pouvait, tu sais, il n'y avait pas eu de validation des écrits de
maçonnerie. On avait, au 19e siècle, on avait, et j'en parlerai à propos du Nouveau Testament, on avait des écrits de l'Ancien Testament traduits en grec, ce qu'on appelle la Septante, mais qui est une traduction grecque très ancienne, avec un certain nombre de variantes par rapport à l'original. Mais essentiellement, c'était des textes du Xe siècle, avec des morceaux d'avant. Alors voilà, là, vous avez des encriers, par exemple, qui servait à ces gens pour écrire avec ça. Okay. Le gars qui cherchait sa chèvre, c'est celui qui est là. Okay. Celui-là, c'est de son clan, et celui-là, c'est le marchand qui a essayé de faire de l'argent avec. Vous voyez, ce sont les bédouins qui ont été impliqués dans cette affaire.
Ce sont des Arabes?
Oui.
Mais est-ce qu'ils en ont trouvé juste dans une grotte ou il y en avait genre partout?
Alors, ils ont commencé par en trouver dans une. Et puis, il a essayé de faire de l'argent avec. Puis ça a traîné, puis il l'a coupé en morceaux pour faire plusieurs morceaux. Il a eu affaire à un marchand, celui-là, qui se proposait de vendre ça à toutes les antiquités. Voilà, c'est ça. Et puis finalement, ça s'est passé entre les mains d'autres gens qui ont dit « Oui, mais attention, ça c'est vieux, cette affaire-là. » Et ça a alerté un certain nombre de gens qui n'ont pas prêté attention. Et ils ont contacté des religieux pour essayer de la leur vendre. Ça n'a pas bien marché finalement. Voilà un exemple de grotte. Un exemple de grotte, c'est une dans laquelle se trouvaient des manuscrits. Finalement, c'est arrivé entre les mains des autorités de l'Université de Jérusalem et ils se sont rendus compte qu'ils avaient là en main des manuscrits qui dataient, les plus anciens sont de 300 avant Jésus et puis ça s'étale jusqu'à 66, 68 quand le monastère a été détruit. Le plus fameux qu'ils ont trouvé, le plus célèbre, c'est le manuscrit du livre du prophète Ésaïe. Un manuscrit qui fait, je crois, 7 mètres de long, très très grand, et particulièrement bien conservé. Ils ont, dans le musée du livre, fait une exposition, c'est un fac-similé qui est là, et ce que vous voyez au milieu, c'est le manche sur lequel ils faisaient rouler leur texte. Donc ils l'ont fait en grand, comme vitrine d'exposition. Et vous avez le rouleau d'Ésaïe. Le rouleau d'Ésaïe qui est tout autour. On se retrouve là avec, en réalité, la bibliothèque de ce monastère. Il y a les écrits propres à leur ordre religieux. Il y a des écrits sur leur théologie à eux, il y a différentes choses, mais il y a entre autres tout l'Ancien Testament. Certains livres sont en plusieurs exemplaires, certains livres sont partiels, mais on a tout l'Ancien Testament.
Ces livres-là, ils ont été datés ou
Alors, ils sont datés en moyenne. Ces copies-là sont datées environ de 150 à 200 avant Jésus-Christ. Vous vous rendez compte que depuis l'an 900, où on avait le document complet de l'Ancien Testament, là, on est en train de faire un bond énorme de pratiquement 1000 ans, parfois plus, qui nous font reculer en arrière vers l'Ancien Testament, c'est-à-dire les écrits originaux.
Les scribes qu'on entend parler, parce que là, on a parlé des maçonnets, puis on a parlé des gens pour la Septante, etc., légèrement. Là.
Oui.
Les scribes qu'on voit mentionnés dans l'Ancien Testament, ils devaient avoir des méthodes similaires de recopiage, non?
Oui.
En principe, vu qu'ils étaient des scribes, et dans ce temps-là, c'était la job d'un scribe, c'était de s'assurer
c'est la parole
que...
de Dieu, c'est ça. J'imagine que c'était suivi.
On s'est rendu compte, en comparant ces textes, qui sont extrêmement séparés par le temps, que finalement, les Juifs, au travers des prophètes, au travers des scribes, et de tous ceux qui ont recopié, ont été extrêmement scrupuleux pour que la parole de Dieu soit transmise avec fidélité. Ce texte-là est particulièrement significatif pour nous pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce texte-là est resté caché tout le long du chemin. Il n'a été découvert qu'après la guerre. Donc il n'a pas été touché depuis le moment où les moines l'ont caché en 66 jusqu'en 1947. 47, 48, 49, 50. Après, ils ont fouillé toute la région pour trouver d'autres et ils en ont trouvé un certain nombre au fur et à mesure du temps. Ça, c'est déjà un élément important. Un autre élément, c'est que on a évidemment commencé à comparer ce texte-là avec les textes qu'on avait. Et les différences ne sont pas significatives par rapport au contenu, à l'enseignement du texte. Les textes massorétiques, on va les comparer avec les textes de la Mer Morte. On va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 1000 ans.
Est-ce qu'il y a eu des ajouts, des erreurs, des changements?
Alors, juste une parenthèse. Généralement, quand on a plusieurs manuscrits de la même chose et que ces manuscrits s'étalent sur le temps, d'une façon générale, sans que ça soit toujours comme ça, le texte qui est le plus court est souvent le plus authentique et le plus ancien. Parce qu'avec le temps, il y a des notes qui se sont rajoutées ou des clarifications qui se sont rajoutées ou bien des traductions ou des copies qui ont été faites avec des synonymes ou des mots différents pour aider à comprendre. Donc le plus court, ce qu'on va dire la leçon la plus courte, est généralement la plus authentique et la plus vieille. Et c'est ce qu'on a effectivement dans ce cas-là. On a un certain nombre de choses qui ne sont pas dans les textes massorétiques qui viennent plus tard. On a parfois des versets qui sont plus courts, où il manque un mot, où il manque un morceau de mot, où il manque une phrase. Dans ma Bible, ces choses sont indiquées entre crochets, les différences entre ces textes. La grosse découverte, c'est qu'il n'y a pas de changement significatif.
Et je l'ai vu moi aussi, son amoriage.
J'ai pas
Non, j'y suis pas allé.
Ah, c'était tellement intéressant, qu'on voyait vraiment ma foi.
Il y a combien de temps, ça?
Ça fait longtemps, j'étais toute petite, là, je devais avoir 10 ans.
8-9 ans, là.
Qu'ils étaient passés.
Mais... C'était vraiment une grande exposition, puis on voyait vraiment une exposition, quand même grande, là.
Alors, l'autre élément qui rend ce texte significatif et important pour nous, c'est le fait que ce sont des copies qui ont été faites avant Jésus. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui en main le texte de l'Ancien Testament que Jésus avait en main. Or, quand on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus accrédite à 100% l'Ancien Testament qu'il a de son temps. Jésus ne va pas dire « Ah, mais attendez, Ésaïe, à partir du chapitre 40, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre plus tard. » Non. Jésus prend l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu. On l'a par exemple dans Luc, on va regarder les textes la prochaine fois. Jésus parle des trois grandes parties des Écritures, la loi, les prophètes et les psaumes, qui sont les trois grandes catégories de textes dans l'Ancien Testament. La loi, les écrits de Moïse, les prophètes les livres écrits par les prophètes et les psaumes, c'est un terme générique pour indiquer généralement ce qu'on appelle nous les livres poétiques, qui n'étaient pas exactement les mêmes que ceux que nous avons parfois la division.
Ces livres poétiques-là, ils servaient à quoi?
Les psaumes, par exemple. Les psaumes, c'est un recueil de chants sans musique. Les proverbes.
Les autres, ils connaissaient la mélodie, nous, on ne la connaît pas.
C'est ça, etc. Les psaumes ont été écrits par David et Salomon, essentiellement.
Ouais.
Et on a donc ces paroles de ce qui était chanté dans le temple.
Mais là, avant les écrits de la Marmotte,
oui.
On n'a rien d'autre. Là, c'était les derniers.
C'est les plus anciens qu'on a. On avait des petits morceaux, comme je disais tout à l'heure. J'ai ici l'image, par exemple, du papyrus Nash, celui-ci, qui datait de 100 avant Jésus et qui, curieusement, était vraiment le plus ancien document qu'on avait qui contient les 10 commandements. Un papyrus, ce n'était pas un parchemin. Alors, on a avec les manuscrits de la Mer Morte un instrument de valeur parce que Jésus, ayant reconnu la valeur incontestable de l'Ancien Testament qu'il avait en main, nous avons, nous, en main le même Ancien Testament qu'il avait. Donc, nous ne pouvons pas dire « Ah, peut-être qu'Ésaïe, ce n'était pas vraiment ça. Ah, peut-être que Daniel, c'était à une autre époque. Ah, mais peut-être que... » Non, Jésus a pris l'Ancien Testament sans discussion comme étant la parole de Dieu. Et c'est à partir de l'Ancien Testament que Jésus a expliqué à ses contemporains qui il était, ce qu'il était venu faire. C'est à partir de l'Ancien Testament que les apôtres ont eux aussi montré qui était Jésus, ce qu'il était venu faire et quelle était sa mission.
Si je te suis, dans le Nouveau Testament, ce que l'histoire de Jésus, où il parle aux gens et leur dit « il est écrit que », il fait référence à l'Ancien Testament.
Exactement.
Qu'il lisait.
Si je considère Jésus comme étant ce qu'il dit qu'il est, c'est-à-dire Dieu venu s'incarner sur terre pour nous sauver, eh bien, je dois prendre ce que Jésus me donne comme étant aussi la parole de Dieu.
Donc, c'est pas juste un gars qui dit, ben, il est écrit ça, fait faut
c'est ça.
Croyer ça.
Je suis en train de vous dire, le Seigneur a fait les choses en sorte que, à l'aube de ce temps moderne où on a commencé à remettre en question l'authenticité du texte biblique, Dieu a permis que ces manuscrits cachés pendant 2000 ans réapparaissent pour que nous ayons en main la même chose que ce qu'avait Jésus. La prochaine fois, je vous raconte l'histoire des livres du Nouveau Testament et puis on va commencer à regarder ce que la parole de Dieu dit d'elle-même. Comment on va l'étudier? Il y a des principes qu'il faut qu'on suive. Si je veux comprendre ce que Dieu me dit aujourd'hui, il faut que je suive le mode d'emploi que Dieu a donné dans la Bible pour l'utiliser.